Bonjour et bienvenue, 15h TU, 17h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la démonstration de force de la Russie, en ce jour anniversaire de la capitulation allemande et alors que se poursuit la guerre contre l'Ukraine, une grande parade militaire s'était lancée sur la place rouge de Moscou devant Vladimir Poutine et une brochette de dirigeants étrangers. De leur côté, la France et la Pologne signent un traité d'amitié et de coopération renforcé comprenant un volet militaire. Les premiers pas du nouveau pape, Léon XIV, a célébré ce matin sa première messe comme chef de l'Église catholique, déplorant le recul de la foi dans le monde. Également dans l'actualité, les opérations militaires qui se multiplient entre l'Inde et le Pakistan, entre les deux pays, l'état de guerre s'installe. La Russie donc célèbre le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, célébration patriotique dans le faste et la grandeur. Tous les cadres du régime ainsi qu'une vingtaine de dirigeants étrangers dont le président chinois ont assisté ce matin à une grande parade militaire. Ont défilé sur la place rouge de Moscou 11 000 soldats dont 1500 ayant combattu en Ukraine. Dans son discours, le président Poutine a de nouveau dénoncé le nazisme en comparant la Deuxième Guerre mondiale avec l'attaque de l'Ukraine en 2022. Cette parade avait des airs de démonstration de force. Toutefois, après plus de 3 ans de guerre, elle a difficilement masqué l'état réel de l'armée russe. Franck Alexandre.
Plusieurs milliers de soldats sur la place rouge, avec des chars bien sûr et des lanceurs nucléaires les plus modernes. Devant la vingtaine de pays représentés, le défilé du 9 mai est toujours une arme de propagande. Pourtant, cet affichage peine à masquer les faiblesses structurelles de l'appareil militaire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a perdu plus de 20 000 équipements lourds, dont 2 600 chars. La flotte de la mer Noire a subi de lourdes pertes, 20 bâtiments coulés ou endommagés, et l'aviation a également souffert. L'Ukraine est parvenue à mettre hors de combat près de 300 appareils, soit le quart des capacités disponibles au début du conflit. Mais grâce à son industrie exclusivement consacrée à l'effort de guerre, la Russie poursuit une remontée en puissance de ses armées et modernise son arsenal stratégique, à commencer par sa flotte de sous-marins nucléaires. Elle s'est aussi dotée de fortes capacités de production de drones et de munitions et parvient même à accroître le nombre de ses soldats avec l'objectif vertical de porter bientôt ses effectifs à 1,5 million d'hommes après en avoir perdu plusieurs centaines de milliers en Ukraine.
Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense à la rédaction. La France, de même que l'Union européenne, dans son ensemble, ont critiqué la présence à Moscou du Premier ministre slovaque Robert Fico, venu assister aux célébrations du 9 mai. Ce n'était pas sa place, a estimé le ministre français chargé de l'Europe. Parallèlement à cette démonstration de force à Moscou, un sommet franco-polonais se tient actuellement à Nancy, dans l'est de la France. En cette journée de l'Europe, Emmanuel Macron et le Premier ministre Donald Tusk que viennent de signer un traité de partenariat renforcé, signe du poids grandissant en Europe de la Pologne, acteur clé face à la Russie. Ce traité a notamment pour objectif de renforcer la coopération militaire, coopération cruciale pour les deux pays. Écoutez Léo Peyra-Peignet de l'Institut français de relations internationales.
Pour la France, elle est cruciale parce que la Pologne, vu ses plans actuels, sera la première puissance militaire terrestre du continent d'ici 10 ans. Que la France, de son côté, fait un pivot européen qui est important depuis quelques années, avec un désengagement contraint de l'Afrique et un réengagement sur le flanc Est, d'abord en Roumanie, en Estonie, mais peut-être à l'avenir en Pologne, qui est nécessaire pour établir un cadre d'une défense européenne plus crédible face à une Russie très agressive.
Et pour la Pologne, pourquoi c'est important ?
Alors la Pologne, en fait, est très courtisée en tant qu'acteur avec de grandes ambitions et de grandes capacités en cours de réalisation, mais ça peut être important notamment puisque la Pologne voudrait presque doubler, par exemple, le volume de son armée terre et aura d'importants besoins en termes de formation, de transfert d'expérience. Et la France est vue encore à l'heure actuelle comme un acteur qui est assez expérimenté, voire très expérimenté dans le domaine militaire.
Léo Peyra-Peignet avec Joris Zilberman. J'évoquais la journée de l'Europe. Elle marque cette année les 75 ans de la construction européenne. Entre l'Inde et le Pakistan, les opérations militaires se multiplient, donnant l'impression que l'état de guerre s'installe. Le Pakistan accuse son voisin de précipiter un conflit majeur. Les tirs, frappes et attaques de drones ont déjà tué une50aine de civils. Les appels des capitales étrangères ne parviennent pas à enrayer cette escalade.
RFI, Radio France Internationale.
Pile 17h05 à Rome, on en vient au premier pas du nouveau pape Léon XIV. Le successeur de François a célébré ce matin sa première messe dans ses nouveaux habits de souverain pontife. C'était devant les cardinaux réunis dans la chapelle Sixtine. Dans son homélie, il a déploré le recul de la foi dans la droite ligne de son prédécesseur. Selon lui, la foi recule dans le monde au profit d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir et le plaisir. Cette messe était le premier d'une série de rendez-vous lors desquels ses paroles et ses gestes seront observés de près. Dimanche 18 mai aura lieu place Saint-Pierre, la messe d'inauguration du nouveau pontificat. L'élection de Robert Francis Prévôt, dont le père était d'ascendance française, a en toute logique fait réagir la classe politique en France. Tour d'horizon avec Raphaël Delvolvé.
À l'extrême droite, où l'on a peu goûté aux positions pro-migrants du précédent pape, on sent bien un désir de voir Léon XIV mener un pontificat plus conservateur. Marine Le Pen, du RN, souhaite qu'il s'inscrive dans celui de Jean-Paul II quand sa nièce, Marion Maréchal, espère une fidélité à la tradition catholique, comprendre l'exact inverse de ce que fut François. Réaction plus enthousiaste à gauche, l'ancien président Hollande croit savoir que la démarche du nouveau pape sera la même que le précédent en faveur des plus fragiles. Beaucoup à gauche republie aussi un ancien tweet de Robert Francis Prévôt dans lequel il critique J.D. Vance, l'ultra-conservateur vice-président américain. Il a pas l'air mal, ce nouveau pape, se réjouit l'écologiste Marine Tondelier. Jean-Luc Mélenchon semble aussi séduit par son profil. Il est américain, pas trumpiste, a un nom français et parle espagnol, écrit-il. Ce côté transnational plaît d'ailleurs au Premier ministre. François Bayrou remarque les origines franco-italiennes du pape ou encore ses 20 années passées au Pérou. Le président Emmanuel Macron lui fait sobre. En chef d'État parlant à un autre chef d'État, il plaide pour un pontificat porteur de paix et d'espérance.
Raphaël Delvolvé du service politique. Chinois et Américains parleront commerce ce week-end à Genève en Suisse. Une première depuis le déclenchement par Donald Trump de sa guerre commerciale. Guerre qui menace les échanges bilatéraux et bouleverse les chaînes d'approvisionnement mondiales. Parmi bien d'autres grands groupes impactés, le géant japonais de l'électronique Panasonic. Panasonic annonce des restructurations qui se traduiront par 10 000 suppressions d'emplois dans le monde, 4% de ses effets. Un accord historique, s'est félicité Donald Trump après avoir conclu un accord sur les droits de douane avec le Royaume-Uni. Un jour historique aux yeux de Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Il s'est joint par téléphone à une conférence de presse organisée dans le bureau ovale à Washington. La portée de cet accord est en effet importante, en particulier pour l'industrie automobile et la sidérurgie britannique. Agnieszka Kumor.
Selon le communiqué, les surtaxes douanières sur l'acier et l'aluminium britanniques tombent à zéro, alors que celles imposées sur les véhicules sont ramenées de 27,5% à 10%. Reste la taxe plancher de 10% annoncée le 2 avril dernier sur la plupart des marchandises importées sur le sol américain. Globalement, les produits britanniques sont davantage taxés à leur entrée aux États-Unis qu'avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Si l'accord négocié depuis plusieurs semaines avec Londres est encore vague et ses détails restent à discuter, il s'agit clairement d'un compromis. L'accord prévoit aussi un accès réciproque au marché sans droit de douane pour le bœuf des deux pays jusqu'à un certain quota. Outre la viande, Donald Trump a assuré que le Royaume-Uni allait s'ouvrir davantage aux marchandises américaines et ce pour plusieurs milliards de dollars comme l'éthanol ainsi que quasiment tous les produits agricoles.
Merci Agnieszka Kumor. En ce mois de mai où les jours fériés sont nombreux, les Français profitent actuellement du pont du 8 mai. À la SNCF, la société de chemin de fer, les syndicats de contrôleurs ont déclenché une grève qui a démarré ce matin sans trop de conséquences sur le trafic pour le moment. La SNCF a prévu de faire rouler plus de 9 TGV sur 10. On savait que les plus riches d'entre nous émettaient plus de gaz à effet de serre que le reste de la population. Pour la première fois, une étude publiée cette semaine mesure l'impact de la concentration des richesses privées sur les événements climatiques extrêmes. Précisément, les 10% les plus riches de la planète sont responsables des deux tiers du réchauffement climatique. Enfin, tennis au tournoi sur terre battue de Rome, le numéro 3 mondial espagnol Alcaraz, contraint de déclarer forfait sur blessure récemment à Madrid. Alcaraz a rassuré ses supporters en balayant le Serbe Dusan Lajovic, le score 6-3, 6-3. Voilà, il est est bientôt 17h10 ici à Paris. L'information revient à 18h avec le journal en français facile. Mais tout de suite sur le pont des Arts, Nathalie Amar, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, bonne soirée à vous. Merci.